Radio Barque, nous poursuivons avec notre troisième partie et notre invité du jour, Pierre-Marie Bécard, donc directeur de Domicia Habitat, c'est-à-dire l'office de HLM, pour parler un petit peu familier, du Grand Narbonne. Précisons bien, du Grand Narbonne. Alors, cette troisième partie est souvent consacrée d'abord à des choses peut-être un petit peu plus personnelles. Et une question, alors, pas vraiment indiscrète, j'imagine, mais comment devient-on directeur, par exemple, de Domicia Habitat Narbonne? Et quel est le trajet ou l'itinéraire parcouru auparavant?
C'est vrai que moi, je dis toujours, je suis un professionnel du logement social et je sais pratiquement faire que ça. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille dans le domaine. J'ai démarré dans le nord de la France, à Dunkerque, où j'ai travaillé dans chez plusieurs bailleurs sociaux, OPH, SA d'HLM. Et puis, depuis 2017, je suis dans l'Aude. J'ai travaillé auparavant chez Marcou Habitat et je suis donc arrivé chez Domicia Habitat le 17 mars 2021, donc pratiquement 4 ans que je suis à la direction générale de Domicia Habitat. Et c'est vrai que j'ai un profil, moi, plutôt développement et patrimoine, puisque j'étais dans les métiers de la maîtrise d'ouvrage, et j'ai appris au fil de ma carrière à étendre mes compétences finalement sur la gestion de proximité, sur la partie financière aussi, qui sont des éléments importants. Et puis là, maintenant, en tant que directeur général, la partie ressources humaines et gestion du personnel, on va dire, en tant que tel, qui effectivement prend beaucoup de temps.
Et alors, vous évoquiez, Monsieur Bécard, Dunkerque. Bon, Dunkerque et Narbonne, ça, ce sont presque le nord et le sud.
Oui.
Est-ce que vous ressentez une différence sensible?
Alors, la météo, déjà.
C'est pas ce que je voulais dire.
Blague à part. Non, bien sûr. C'est vrai que, je dirais que, sur le territoire du nord de la France, les Hauts-de-France en général, et Dunkerque en particulier, il y a cette culture que j'évoquais tout à l'heure du logement social qui est vraiment très importante dans le nord de la France, et qu'il faut, je pense, arriver à développer peut-être davantage ici, puisque le logement social dans le nord de la France, c'est le logement pour tous, c'est vraiment le logement du salarié, c'est le logement de la personne en difficulté, c'est le logement du retraité, de l'étudiant. Et peut-être qu'on a besoin d'apporter cette diversité supplémentaire aussi, ici sur le Narbonnais. On a du mal à accueillir des salariés, effectivement, dans notre parc. Pourtant, on les accueillerait très bien. On en accueille quand même un certain nombre. Mais on a besoin, je pense, de travailler sur ce développement du logement aussi, vraiment pour tous.
Mais peut-être que dans le sud, ou la Narbonnaise, ou d'autres villes, on n'a pas cette culture ouvrière qu'avait le nord depuis des générations.
C'est tout à fait juste. Il y a cette différence-là, notamment, qui fait que le logement salarié, le logement ouvrier était très présent dans le nord de la France, et dans l'Est aussi d'ailleurs.
Une expression qui me vient à l'esprit, c'est des communes carencées, à propos de HLM. Alors les gens peuvent se demander ce que ça veut dire. Expliquez-nous, parce que carencé de quoi?
Alors ça fait référence à la loi SRU, hein, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui date de 2000, qui donc fixe des obligations pour les communes de respecter un quota de logement social sur leur territoire, qui est fixé à 25%. Donc on a un certain nombre de communes qui sont concernées ici sur le territoire du Grand Narbonne. Et une commune qui serait carencée, c'est une commune qui n'atteint pas le seuil des 25% fixé par la loi.
Oui, alors théoriquement, il y a des sanctions qui sont prévues. Elle doit payer une amende, en quelque sorte.
Ces communes sont particulièrement regardées par l'État, effectivement, et par le préfet, hein, puisque ces obligations sont importantes à respecter. Il y a une discussion qui est menée entre les communes et l'État sur le sujet. Et si une commune n'était pas suffisamment volontariste dans le développement du logement social, effectivement, elle peut être sanctionnée financièrement par l'État pour non atteindre des objectifs
oui,
SRU.
Mais volontariste, il n'y a pas une échelle et un double de décimètre qui permet de le mesurer. Et on sait que certaines communes sont volontaristes, mais ça ne marche pas pour autant.
Alors, effectivement, elles ont les contraintes souvent urbanistiques à respecter. On sait que ici sur le territoire, on a des problématiques d'inondation, des problématiques de loi littorale,
oui,
des problématiques
aussi pour construire, il faut des terrains.
Exactement, et ils sont de plus en plus rares, donc de plus en plus chers. Et effectivement, atteindre dans des communes très attractives, notamment du littoral, le seuil des 25% de logement social, c'est très difficile, mais je crois que l'État est capable d'apprécier quand même.
De faire preuve d'indulgence quand même.
D'indulgence et aussi, voilà, de sans être naïf, de comprendre les problématiques que certaines communes peuvent avoir. Et je pense que ça se passe plutôt bien dans les relations entre les communes et l'État.
Alors, un problème de logement qui pointe à l'horizon, c'est alors à cause ou plutôt grâce au développement de Port-la-Nouvelle, à la fois l'extension du port et puis le développement de l'éolien dont tout le monde est informé aujourd'hui. Mais, grande question, où va-t-on loger tous ces gens qui devront travailler sur Port-la-Nouvelle ?
C'est vrai que on est sensible au sujet et je pense que l'ensemble des acteurs de la construction aussi, hein, les entreprises notamment, on doit développer une logique de territoire pour accueillir les futurs salariés qui vont travailler sur le port de la Nouvelle. On entend parler de 3000 emplois pérennes à terme sur l'éolien et l'hydrogène. Donc c'est vrai que aujourd'hui déjà, on travaille, on a une logique d'anticipation de ces besoins. On travaille donc sur le territoire proche de la Nouvelle, mais aussi à l'échelle du Grand Narbonne, et même, je dirais, on commence à entamer des réflexions sur l'arrière-pays, le Lézignanais notamment, où voilà, on a la volonté de répondre aux besoins de loger des salariés du Grand Narbonne, en lien avec le projet de Port-la-Nouvelle. Donc c'est effectivement pas facile de développer actuellement. On est à la recherche de fonciers et on y arrive grâce au soutien des communes. Hein. Les communes font appel à nous et on arrive à répondre à leurs attentes avec nos confrères aussi pour que justement on n'ait pas des personnes qui travaillent sur le Grand Narbonne qui doivent aller se loger ou dans les Pyrénées-Orientales ou même parfois sur l'Hérault. Il faut qu'on arrive à les garder sur le territoire pour continuer son développement.
Oui, mais ça, c'est un défi pour les années qui viennent, très, très probablement.
C'est sûr, on a sans doute devant nous une dizaine d'années pour arriver à accueillir tous ces salariés. Oui.
Parmi les adaptations nécessaires dans beaucoup de domaines, y compris donc dans le logement social, il y a l'environnement, les contraintes, les exigences environnementales aujourd'hui. Je suppose que vous ne passez pas au travers.
Effectivement, c'est une politique environnementale qu'on a voulu justement développer là depuis quelque temps et sur laquelle on met particulièrement l'accent en ce moment. La direction développement et transition environnementale qu'on a créée depuis le 1er janvier au sein de Domicile Habitat travaille particulièrement sur ces thématiques. Alors on entend parler de décarbonation du parc de logement social et on a voulu justement anticiper les obligations réglementaires et travailler d'ores et déjà sur notre plan stratégique de patrimoine décarboné. Et donc ça veut dire qu'on anticipe les émissions de gaz à effet de serre de notre parc pour pouvoir les réduire, puisque vous savez que avec la stratégie nationale bas carbone à horizon 2050, les exigences sont très 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 fortes en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on a anticipé tout ça. On commence à agir d'ores et déjà sur la réduction des gaz à effet de serre. Bien sûr, ça passe d'abord par les rénovations énergétiques de notre parc. On fait beaucoup d'isolation. Quand on fait une réhabilitation, on isole nos logements, ce qui permet de réduire les consommations et les besoins. Mais au-delà de ça, on va aussi être amené à, par exemple, éliminer petit à petit les chaudières au gaz qu'ils peuvent avoir encore dans nos logements, pour les passer à des productions électriques. Donc c'est un exemple parmi d'autres de ce qu'on va faire. Toujours dans la politique environnementale, on a aussi la volonté de verdir davantage et de renaturer nos résidences, de les résidentialiser aussi, c'est-à-dire de planter. Hein.
Planter,
voilà. Planter des arbres, planter des fleurs, planter des arbustes. Et donc ça aussi, c'est quelque chose, une thématique qu'on porte en lien avec le réchauffement climatique. On sait bien que la création d'îlots de fraîcheur sera appréciée sans doute de plus en plus dans les prochaines années. Donc effectivement, c'est une politique qu'on accompagne aujourd'hui et sur laquelle on est particulièrement volontariste.
Un tout dernier point peut-être, très probablement. Alors parmi l'actualité, je l'évoquais tout à l'heure, parmi les choses un petit peu désagréables, il y a... On a évoqué le cas de corruption, vous l'avez expliqué, Monsieur Mécard, mais c'est une coïncidence peut-être, mais il n'y a pas longtemps également dans l'actualité, il y avait une personne dans un HLM de Narbonne qui se plaignait d'insalubrité et qui faisait grand bruit médiatiquement en quelque sorte. Alors, ça vous concerne pas vous directement, mais enfin, j'imagine que le cas vous intéresse quand même.
Bien sûr, alors ça concerne effectivement un de nos confrères, mais on voit d'ailleurs au travers des explications qui sont données par le directeur de notre confrère que parfois effectivement on a des locataires qui certes peuvent avoir des désagréments, nous aussi bien entendu, parfois on a des problèmes techniques à régler, hein, et nos équipes sont là pour ça, mais on a aussi parfois des locataires qui peuvent... faire parfois du chantage, chantage à la mutation aussi, et donc ça évidemment on n'est pas naïf sur le sujet, on comprend les difficultés de nos locataires, on accompagne nos locataires en difficulté, mais on est aussi là pour montrer que le bailleur a des pouvoirs, que le locataire a aussi des obligations, notamment de laisser l'accès aux entreprises qui doivent faire des travaux pour justement régler les problèmes techniques, et on peut pas avoir une logique de laisser perdurer un problème, de parfois faire du chantage à de la communication dans la presse ou dans les médias pour faire agir le bailleur. Donc on n'est pas naïf sur le sujet et on arrive à prendre ça au cas par cas, effectivement.
Voilà, donc il faut être clair. Rappelez que être locataire HLM, c'est aussi être citoyen, peut-être.
Et oui, tout à fait, tout à fait.
On conclut là-dessus. Merci beaucoup, Pierre-Marie Vécard, donc directeur de Domicia Habitat, bailleur social du Grand Narbonne.
Merci Jean-Claude Jules de votre invitation et j'en profite puisqu'on est encore au mois de janvier pour souhaiter une bonne année à tous nos locataires et à tous nos partenaires. L'année 2025 sera encore une année riche pour Domicia Habitat et on travaille pour le territoire.
Voilà, et on se reverra très prochainement pour voir où tout cela a abouti. Merci encore. Le prochain invité sera le procureur de la République du tribunal judiciaire de Narbonne, Éric Camousse. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.